13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Omblin. Comment ça va aujourd'hui ?
Bonjour, ça va bien Olivier, bonjour à tous.
Pendant cette heure, nous partageons, comme vous le savez, vos expériences de vie, car votre vécu nous intéresse à Europe 1. La pédophilie dans l'église est un véritable fléau, au point que le 7 novembre dernier, une commission indépendante a été créée par les évêques de France pour, je cite, faire la lumière sur les abus sexuels sur les mineurs dans l'église catholique depuis 1950. Ils devront rendre un rapport public d'ici 18 mois à 2 ans, une commission qui souhaiterait aussi proposer un geste financier aux victimes. Des victimes toujours aussi nombreuses et puis d'autres que l'on ne connaît pas encore parce que tout cela remontera à un moment à la surface et qu'elles se manifesteront car le cerveau occulte parfois les traumatismes. C'est ce que l'on appelle une amnésie traumatique. Des procès sont aussi à venir, celui du père Pérard par exemple. L'affaire a éclaté en juillet 2017 lorsque les victimes ont révélé avoir été abusées sexuellement par lui. Il sera jugé pour agression sexuelle sur mineurs le 20 novembre prochain. Comment lutter contre la pédophilie dans l'église ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Vous n'hésitez pas à composer le 39 21 50 centimes la minute. Nous vous lisons sur Twitter, bien sûr, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Jean-François sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Jean-François.
Bonjour Olivier.
Vous avez 61 ans et si vous témoignez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 3 ans, vous avez pris conscience que vous aviez subi des agressions sexuelles à l'âge de 12 ans par un prêtre stéphanois. Sauf qu'avant cela, il y a eu des dizaines d'années de stress post-traumatique qui vous ont fait oublier ce que vous aviez subi. Vous sentiez comment ? C'était comme un mal-être inexplicable ?
Oui, c'est cela. Un mal-être que je traînais sans pouvoir mettre de cause, de nom dessus. À la naissance de mes 4 enfants, j'ai fait de grosses dépressions. Je ne savais pas pourquoi, parce que c'est un moment joyeux. Et en fait, j'ai compris avec mon psy, Rémi, que je mettais au monde un possible abusable. Mmh.
C'est
ça qui me... Pardon ?
C'est là que vous avez pris conscience, en fait, de ce qui s'était passé ? Ou comment ça a eu lieu, cette prise de conscience ?
C'est vrai que la notion d'abus... J'avais l'intime conviction, depuis des années, que j'avais été abusé pendant l'enfance. Mais je n'arrivais pas à tirer les liens, à retrouver. Il y a 4 ans, mon psy a noté sur son ordinateur que je signalais que j'avais l'intime conviction d'avoir subi des abus par un adulte, mais que je ne pouvais pas mettre un nom sur la personne. Ce qui s'est passé, c'est que, ne croyant pas l'abcès, c'est allé de mal en pis. J'ai tenté de disparaître, enfin de mettre fin à mes jours. J'ai passé 1 an et demi dans les urgences et hôpitaux psychiatriques. J'ai subi 19 séances de sismothérapie, 19 séances d'électrochoc. C'est terrible, c'est... On vous endort, on vous met des électrodes sur la tête.
Oui.
On envoie de l'électricité jusqu'à provoquer une crise d'épilepsie.
Est-ce que c'est à la suite de ces séances que, à un moment, le souvenir précis de ce qui vous est arrivé est revenu ?
Ces séances participent à la révélation, mais... Il y a également toute la psychothérapie que j'ai menée avec mon psy. Et c'est difficile de dire si c'est l'un ou c'est l'autre. Je pense que c'est les deux choses qui ont conduit à cette révélation.
Alors, nous ne sommes pas là, rassurez-vous. Je vais vous détendre tout de suite. Nous ne sommes pas là pour que vous nous racontiez dans quelles conditions se sont déroulées ces agressions. Ce que je voudrais savoir, c'est que à partir du moment où vous prenez conscience que cela eu bien lieu. Puisque je rappelle qu'il existe une trentaine de victimes présumées hein, du père Perrin.
Vous êtes en dessous de... Enfin, il existe un site qui s'appelle Coabuse, où les abusés peuvent témoigner.
Oui.
Et pour le site Coabuse, il y a une petite centaine de victimes.
Une petite centaine
parce
de victimes.
Il y a des témoignages qui... des gens qui ont été abusés et qui n'ont pas souhaité donner suite
À tout ça.
À tout ça, voilà.
Est-ce que vous les avez rencontrés, ces personnes-là ? Vous avez eu l'occasion d'échanger avec elles ?
Oui, on s'est rencontrés plusieurs fois.
Est-ce que ça vous a éclairé un peu ? Est-ce que ça vous a conforté ? Parce que je suppose que lorsqu'on... Voilà, le souvenir revient des années plus tard, parce que le traumatisme a dû être tellement fulgurant que voilà, il réapparaît comme ça plus tard. Enfin, est-ce que ça vous a aidé?
C'est difficile parce qu'on n'a pas subi les mêmes choses. Mm-hmm. Moi, j'ai été sodomisé, il faut appeler un chat. Hein. J'étais toute une nuit. Puis il y en a d'autres qui ont été simplement, faut entre parenthèses. Toucher, effleurer, caresser. Et c'est vrai que moi, j'étais plus vindicatif dans le groupe parce que c'était atroce ce que j'avais subi. Et surtout, il y avait 46 ans de...
Mais est-ce que parler avec les autres, cela vous a fait du bien ? Tout simplement, d'un point de vue de vous reconnaître victime parmi les autres, parmi ceux avec qui vous échangez ?
Oui, tout à fait. Mmh. Oui. Et quand je les ai rencontrés la première fois, je les ai tous invités à la maison, là, on a mangé ensemble et... Enfin, je n'étais plus seul.
D'accord. Jean-François, vous restez avec nous, on va continuer à parler de votre histoire et évoquer les suites de cette histoire juste après la pause.
Europe 1. Nous parlons des crimes pédophiles commis par des membres de l'Église et nous vous écoutons au 3921. Les révélations de scandales sexuels dans l'Église sont de plus en plus nombreuses. Nous en parlons avec vous cet après-midi au 3921. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours avec Jean-François qui évoquait la violence des agressions qu'il avait subies et l'échange qu'il avait eu avec des victimes et qui lui avait fait ô combien du bien. Jean-François, c'est un homme qui avait autorité sur les enfants, qui avait autorité un petit peu sur tout le monde, parce qu'on sait que dans une paroisse, le curé, c'est quelque chose qui, enfin, c'est quelqu'un qui incarne, voilà, une autorité déjà. Pourquoi y a-t-il eu un tel silence autour des agissements de ce prêtre et pourquoi si longtemps ?
Je suis content que vous me posiez cette question parce que les autorités, elles sont atteintes de procrastination. C'est-à-dire qu'on remet à des mois, à des années, des témoignages. Il faut savoir que l'évêché de Saint-Étienne était au courant depuis 98, puisqu'il y a des témoignages qui datent de 98, des jeunes abusés qui avaient témoigné. Et bien sûr, les responsables de l'évêché de cette époque n'ont pas saisi le procureur de la République.
Ils n'ont pas saisi parce qu'ils ne voulaient pas entendre.
Ah oui, c'est mal. L'Église dit malheur parce qu'on a l'air, mais c'est nous. C'est moi qui... C'est pas eux qui font scandale avec leur couverture. C'est moi qui fais scandale en témoignant. Mmh. Et aussi, il y a le rôle de la justice. Parce que j'ai un ami abusé qui a écrit en 1998 au procureur de la République de Saint-Étienne.
Oui.
Une lettre recommandée avec l'accusé de réception. J'ai vu l'accusé de réception. Et il attend toujours la réponse du procureur.
Mais vous, est-ce que vous avez porté plainte à un moment ? Je ne vous ai pas demandé à l'âge de 12 ans, en fait.
Oui.
On en parle à sa famille ou vous avez mis combien de temps à en parler à votre famille ? Et est-ce que vous en avez parlé d'ailleurs ?
Non, je n'en ai pas parlé.
À un moment, en fait, je sais que vous avez fait une amnésie, mais lorsque ces choses se produisent, est-ce que on envoie un signal à sa famille? Est-ce que votre famille, vous avez dû échanger avec votre famille depuis? Est-ce que personne n'a rien vu vraiment? Il n'y a eu aucun changement dans votre comportement à cet âge-là?
Alors, il y a la famille, il y a famille et famille, parce que ma maman est décédée.
Oui.
Mais mon père et mes frères et sœurs me reprochent d'avoir témoigné. Donc, je ne les vois pas depuis que j'ai parlé.
Ça veut dire que finalement, depuis que vous avez porté plainte, votre famille, en tout cas ses frères et sœurs, ne vous parlent plus?
Non. Non. Heureusement, j'ai mon épouse, mes enfants, mes deux petites filles, Lila et Sacha. Mais c'est la deuxième lame. Moi, mon père, j'ai fait le premier pas, je suis allé le voir, je lui ai expliqué, je lui ai montré les articles de presse. Mmh. Et il m'a écouté. Comme l'a fait l'évêque, d'ailleurs, il m'a écouté et il m'a dit, mais à la fin, c'est pas sorti de ton imagination. Et l'évêque est venu me voir, Sylvain Bataille, il est venu me voir, il m'a écouté pleurer pendant quatre heures. Et à la fin, il m'a dit, Jean-François, est-ce qu'on peut se parler 2 minutes tous les deux? Et il me dit, j'ai 2 questions à vous poser. Est-ce que vous avez menti? Et est-ce que vous avez augmenté les faits?
Vous lui aviez répondu quoi?
Sur le coup, rien, parce que j'étais sidéré.
Oui, oui, j'entends.
J'étais sidéré, et le lendemain, j'ai essayé de l'appeler, je n'ai pas pu le joindre, je lui ai envoyé un mail en lui demandant ce que voulait dire ces 2 questions, quoi. Mmh. Parce qu'en fait, il reste pendant 4 heures, il me voit pleurer pendant 4 heures. Et,
mmh. Le 20 novembre prochain, le procès s'ouvrira. Vous en attendez quoi de ce procès?
J'allais dire pas grand-chose, parce que de toute façon, c'est le procès d'une personne.
Vous aimeriez quoi, justement? Vous aimeriez que ça soit le procès de cet homme, mais de l'institution qui l'a protégé?
Ah bah oui, l'institution, c'est l'institution qui a produit un homme.
Bien sûr,
ça.
Bien sûr. Et elle ne risque rien, cette institution, finalement?
Alors, apparemment, j'ai appris par la banque que l'évêque ne sera pas présent au procès. Ça, nous, on ne peut pas l'entendre. Enfin, mmh. Quel courage. Et moi, ce que j'ai à dire toujours aux institutions, c'est que André Maire, le procureur de la République aujourd'hui à Saint-Étienne, a dit, écoutez bien, il a dit, et les gendarmes nous ont rapporté des propos, le procureur de la République d'aujourd'hui a dit, si mes prédécesseurs avaient fait leur travail à leur époque, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Et heureusement, le procès va arriver bientôt. Donc je suppose que c'est au moins un moment qui va sûrement être très dur à traverser, mais qu'au moins vous allez le traverser d'abord avec les autres victimes, et que bien évidemment, on espère qu'il aboutira à une réponse qui puisse apaiser vos souffrances. En tout cas, merci infiniment pour votre témoignage au 3921. Dans quelques instants, nous accueillerons Catherine Bonnet. Elle est pédopsychiatre, spécialiste des violences sexuelles sur mineurs. Elle est ancienne conseillère du pape sur la lutte contre la pédophilie.
Europe 1. Les enfants victimes d'abus sexuels commis par des hommes d'église. Nous en parlons avec vous sur Europe 1 cet après-midi et nous vous écoutons au 3921. Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons des abus sexuels commis sur des enfants par des membres du clergé. Le fléau de la pédophilie dans l'église, on vous attend au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Catherine Bonnet, pédopsychiatre et spécialiste des violences sexuelles sur mineurs. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Pourquoi y a-t-il une telle omerta autour de la pédophilie dans l'église?
Écoutez, ça se passe à plusieurs niveaux. Tout d'abord, je crois que d'une manière générale en France, tout ce qui concerne les violences sexuelles à l'encontre des garçons, il y a une omerta, les hommes à l'âge adulte ont beaucoup plus de mal à dévoiler, et les garçons à l'âge mineur également que les filles. Donc ça, c'est une première chose. Mmh. D'autre part, l'Église, ça fait donc effectivement peu de temps qu'elle se rende compte en France que c'est grave. Je crois qu'il y a eu quand même des progrès. Mais là, le témoignage que je viens d'entendre est vraiment bouleversant. Je pense que cet homme a vraiment beaucoup de courage, parce qu'il faut énormément de courage pour pouvoir dévoiler, à quel que soit l'âge de la vie, et plus le dévoilement est tardif et plus c'est difficile, parce que ça a été très longtemps gardé, même si il en a pris conscience progressivement. J'ai écouté son témoignage. Et le sentiment de solitude est énorme pour toutes les victimes, pour tous les enfants. C'est un sentiment de solitude énorme. Alors l'accueil des victimes est essentiel. Et je crois que là, ce que j'ai entendu, il faut absolument que l'Église, les évêques, les prêtres soient formés à accueillir des témoignages. Il y a extrêmement peu de mensonges, de dévoilements intentionnellement faux. Les études américaines donnent comme chiffre 0,1%, c'est-à-dire 1 pour 1000 de signalements intentionnellement faux. Mmh. Donc c'est très rare. Et en France, bien malheureusement, en 1999, il y a eu tout un courant de recul. Et en particulier, il y a eu des informations qui ont été données dans la presse qui étaient fausses, s'appuyant sur des statistiques américaines disant qu'il y avait 30 à 70% d'enfants de signalements faux. Et donc, est revenue l'idée que l'enfant mentait. Et cette idée était déjà survenue au 19e siècle, lorsque le premier médecin qui a travaillé sur ces questions, le professeur Ambroise Tardier, qui a décrit 930 cas de violences sexuelles à l'encontre des mineurs, publiés dans un livre. Après sa mort, des médecins ont remis en question son travail, disant que les enfants mentaient, il fallait pas les croire comme ça, etc. Et tous les travaux ont été enterrés pendant 100 ans.
Oui, et puis, en fait, pour revenir à l'objet vraiment direct de notre discussion, qui ne concerne pas la possibilité que les enfants mentent, parce que, comme vous le dites, cela a été établi qu'ils ne mentaient pas, il y a quelque chose de particulièrement gênant quand même, c'est l'attitude de l'institution, l'attitude de la hiérarchie de l'Église à chaque fois qu'il y a eu des problèmes soulevés de pédophilie, cette attitude de cacher, hein, d'enfouir. Vous avez démissionné de la commission contre la pédophilie du Vatican en février dernier. J'allais vous demander pourquoi, mais j'ai comme un petit doute sur votre réponse.
Oui, eh ben écoutez, justement, c'était parce que j'ai pris position en disant qu'il fallait absolument que les évêques aient une obligation de signalement et les supérieurs religieux. Oui. Et que j'ai pas réussi à convaincre les collègues de ma commission pour pouvoir faire cette proposition au pape, parce que pour pouvoir convaincre, pour pouvoir présenter une proposition au pape, il fallait qu'il y ait 2/3 des votes des membres de la commission.
Vous vous êtes sentie donc impuissante?
Je me suis sentie impuissante et puis il y a aussi un problème dans l'Église qui n'est pas suffisamment connu, je pense, c'est qu'il y a une confidentialité dans l'Église, dans le droit canon, le secret pontifical, et ils n'ont pas fait d'exception à cette confidentialité, comme ça existe dans la plupart des législations, pour pouvoir justement signaler des cas de violence à l'encontre des mineurs.
Catherine Bonnet, nous allons continuer à en parler juste après la pause. Nous reviendrons justement sur ce point-là de justement de cette commission contre la pédophilie du Vatican et des raisons qui vous ont poussé à en démissionner.
Europe 1. L'Église catholique est branlée par des scandales de pédophilie de plus en plus nombreux. Comment lutter contre les abus sexuels commis par les membres du clergé ? On vous écoute au 39-21. Parlons des actes de pédophilie commis par des membres de l'Église catholique. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Catherine Bonnet, pédopsychiatre et spécialiste des violences sexuelles sur mineurs. Catherine Bonnet, je rappelle que vous avez démissionné de cette commission indépendante pour faire la lumière sur les faits de pédophilie dans l'Église. Que pensez-vous ? Est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience déjà ? Ou est-ce que là, on est en train de faire une commission pour un petit peu, encore une fois, faire durer et puis donner l'impression qu'on s'en occupe et puis pour les victimes, en fait, faire comme d'habitude, que ça ne bouge pas ?
Écoutez, j'espère qu'il va y avoir un changement. Vraiment, c'est urgent, absolument urgent. Et je pense qu'il est très important, c'est justement de pouvoir écouter les témoignages de victimes. Là, ce monsieur qui vient de parler explique tellement bien toutes les difficultés qu'il a eues. Et lorsqu'il a essayé de parler, je crois qu'il faut absolument que ceux qui vont faire partie d'une commission puissent entendre ces faits. Et moi, c'était également une des raisons pour laquelle j'ai démissionné de la commission pontificale, parce que je souhaitais que notre commission auditionne des victimes, toutes celles qui le souhaitaient, qu'on fasse un appel général et proposer à tous ceux qui voulaient d'être auditionnés, puissent être auditionnés. Et je n'ai pas réussi à convaincre.
Et vous parliez, vous évoquiez justement les deux tiers, et qu'il fallait deux tiers des évêques qui soient d'accord pour que ça remonte au pape François.
Alors, excusez-moi, je n'ai pas été assez claire, c'était deux tiers des membres de la commission.
Des membres de la commission,
oui,
d'accord.
Oui, voilà, deux tiers des membres, nous étions 17, et nous travaillons sur plusieurs thèmes, et donc moi je faisais partie du groupe qui travaillait, qui s'occupait des victimes, c'est pour ça que c'était important pour moi qu'elles soient auditionnées, et du groupe qui s'occupait du droit canon et des droits civils. Donc si vous voulez, nous rédigeons une proposition, nous travaillons sur une proposition, nous la soumettions en assemblée plénière à notre commission, et pour que cette proposition soit présentée au pape François, il fallait que deux tiers des membres soient d'accord. Donc là, je n'ai pas réussi à convaincre. Par contre, alors donc c'est pour ça que j'ai donné ma démission, parce que bon, pour moi l'essentiel, le signalement, si vous voulez, c'est la clé d'un parcours de soins. Et ce que les gens ne comprennent pas bien quand ils n'ont pas été en contact avec des victimes, ils ne comprennent pas bien que forcément, lorsqu'un professionnel ou un prêtre ou un religieux ou un évêque écoute des victimes, il est forcément à l'écouter, mais il n'a pas été témoin des violences.
Enfin, il n'a pas été témoin, entendons-nous.
Témoin des agressions, c'est ça qui est compliqué. Si vous voulez, il écoute une victime qui lui rapporte ce qu'elle a vécu. Mais comme il n'a pas été témoin, il est gêné. Et donc, en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand on signale la suspicion de violence.
Mais pardonnez-moi de vous interrompre, mais un policier qui reçoit la plainte d'une femme qui a été violée n'a pas été témoin de l'agression qu'a commis, dont a été victime cette femme. Et pourtant, il prend en considération cette plainte. Donc, quelle est la différence finalement ? Je ne la saisis pas.
Oui, eh ben c'est très important. Votre question est très importante. Un policier, il applique l'article 40 de procédure pénale, qui est le seul article du code pénal, du code de procédure pénale, qui oblige à signaler tout ce dont il a eu connaissance. Donc un policier, quand on lui rapporte, on porte plainte, il doit adresser ce qu'il a entendu au procureur de la République. Un évêque, un religieux, un médecin. Alors les médecins, nous faisons un travail de détection, donc nous avons des éléments avec des symptômes, etc. Mais, et des dévoilements, donc c'est l'ensemble que nous rapportons, mais en suspectant. On est obligé, il y a cette notion de suspecter, c'est-à-dire que nous ne soupçonnons pas qu'il y a un mensonge, il faut inverser cette notion, parce que nous ne pouvons pas affirmer que ça a eu lieu. Nous pouvons suspecter que des violences ont eu lieu suite aux dévoilements qui ont été faits et aux symptômes que nous, les médecins, nous avons constatés au cours de notre examen. Et donc, en ce qui concerne des religieux, s'ils ont eu connaissance, c'est-à-dire que s'ils ont recueilli un dévoilement à ce moment-là, c'est pareil, ils peuvent adresser un signalement au procureur, ils sont autorisés à adresser un signalement au procureur pour pouvoir expliquer ce qu'ils ont recueilli. Et là, on est aussi dans la suspicion, s'il vous plaît. Si vous voulez, on n'est pas dans l'affirmation, on ne peut pas. C'est là toute la complexité.
Et la subtilité qui amène souvent ces évêques, ou en tout cas ces membres de l'Église, à ne pas signaler et à aller plutôt, encore une fois, de pencher pour l'instant, je dis bien pour l'instant, du côté des prêtres vers qui se portent ces accusations. Catherine Bonnet, vous restez en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et spécialiste des violences sexuelles sur mineurs. Dans quelques instants, nous serons avec Jean-Pierre. Il est l'auteur du livre « Une croix sur l'enfance en Vendée » et il a lui aussi été victime d'actes pédophiles par un membre de l'Église.
Nous parlons des crimes pédophiles commis par les membres du clergé. Nous vous écoutons au 39-21 sur Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons des abus sexuels commis sur des enfants par des membres de l'Église et on vous écoute au 39-21.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Jean-Pierre. Bonjour et soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Jean-Pierre.
Oui, bonjour.
Jean-Pierre, dans les années 60, vous aviez 11 ans. Vous rejoignez le séminaire de Chavagne en Payet, en Vendée. Un prêtre abusait de vous lors des confessions hebdomadaires. Dans votre tête d'enfant, que se passait-il lorsque ce prêtre vous agressait?
Alors, je dois dire une autre chose, c'est que j'ai d'abord été agressé par le recruteur, puisque en fait, dans mon livre, je raconte aussi tout l'enrôlement qu'il y a eu des enfants dans ces années 50-60, jusqu'en 70. Oui. Première chose que je dénonce, très très grave, et j'ai été déjà agressé au moment de mon enrôlement par ce prêtre, qui est devenu d'ailleurs évêque honoraire par la suite. Ce prêtre ayant, pour sa part, agressé des dizaines d'enfants, je pourrais presque dire des centaines d'enfants. C'est notoirement connu en Vendée.
Mmh. Voilà. Ce prêtre devenu évêque encore en exercice aujourd'hui?
Non, ce prêtre est décédé, mais il a laissé historiquement son nom dans toute cette histoire d'enrôlement des petits séminaristes. Et donc, ces attouchements, c'était des attouchements, se passaient en fin de recrutement, au moment d'une confession en général. Mais ce prêtre se déplaçait aussi dans les familles pour enrôler des enfants. Donc, il demandait à la maman de lui donner, prêter la chambre familiale et où il emmenait l'enfant. Et les enfants étaient agressés à l'occasion, attouchés. Hein.
Vous parlez d'un véritable système de recrutement.
Oui, absolument.
C'est
on
fort.
On a fabriqué en Vendée à partir de... Ça a commencé en 34, mais ça a été très très fort à partir des années 50 jusqu'en 70. Après 68, tout s'est éteint. D'ailleurs, ils ne recrutaient plus personne, ils ne trouvaient plus personne. C'est ce qui donne la preuve du système. Et oui, on a mis en place, si vous voulez, une véritable croisade avec le concours des enseignants, des curés de paroisse, des parents, des mouvements de jeunesse. Pour trouver des enfants, il fallait des bras, puisque l'Église, on est en Vendée, hein, donc l'Église se développait de façon impressionnante. Et puis, bon, spontanément, ils ne trouvaient pas de vocation, donc il fallait en fabriquer. Donc pour en fabriquer, on s'est servi de toute... je dirais, on environnait les enfants, là, les parents, les enseignants, etc. Oui. Et on a fabriqué des vocations. On a été emmenés comme ça. On s'est retrouvés dans les séminaires, pour ma part, si vous voulez, dans la rentrée de 61. On s'est retrouvés 143, c'est dire la réussite. D'ailleurs, ils se sont félicités à l'église de l'évêché de Vendée. Ils se sont félicités de cette merveilleuse réussite de cette croisade, puisque cette année-là, on est rentré 143. Vous voyez, c'était assez énorme. Et ça a été vrai comme ça pendant une quinzaine d'années. Et des 143, à la fin, il y avait une dizaine de confirmations, enfin de prêtrises. Donc, vous voyez, le grand déchet énorme de 85-90% prouve, si vous voulez, cette espèce d'absurdité de ces fabrications de vocations.
Vous avez mis 50 ans à écrire cet ouvrage.
Alors oui, j'ai mis 50 ans.
Une croix sur l'enfance de Vendée. C'est le titre de votre ouvrage. Vous aviez essayé d'occulter cette période, de ne plus y penser?
Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est vrai de l'ensemble. Aujourd'hui, vous savez, après ce livre qui fait un boom incroyable dans la région, on est au troisième retirage et avec des interruptions. En réalité, je reçois beaucoup de témoignages et c'est vrai, si vous voulez, de l'ensemble de beaucoup de mes anciens collègues. Évidemment, quand on est enrôlé, si vous voulez, sans vocation, quand on se retrouve dans ce milieu-là, c'est déjà très difficile. Hein. Il y a cet arrachement avec la famille, avec les copains. Moi, pour moi, c'est un espèce de premier viol, si vous voulez, puisqu'on a 10 ans, 11 ans, et on nous inculque une vocation qu'on n'a pas, et on est enfermé. Donc, pour moi, c'est le premier viol. Et après, pour venir à votre question, moi, j'ai eu à souffrir d'attouchements en cinquième, par mon professeur de mathématiques, ça a duré plusieurs mois. Et évidemment, j'ai, comme beaucoup d'autres copains, j'ai enterré ça, parce qu'en fait, on était complètement isolés, on pense toujours être le seul. Si vous voulez, pendant des années, j'ai toujours pensé avoir été la seule victime, même en me posant la question, au fond, est-ce que tu n'as pas rêvé tout ça, etc.
Oui.
Sauf que c'était dans un coin de moi, avec une grande douleur. Et que quand j'ai commencé à parler avec mes enfants. C'est mes filles, à un moment donné, il y a 5 ans environ, qui m'ont incité à me vider, à faire ce livre, puisque j'étais, à côté de ça, je suis écrivain, j'écrivais depuis une trentaine d'années, essentiellement de la poésie, ce qui m'a sauvé d'ailleurs moi. Ça a été ma thérapie, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai tenu. J'ai pas eu la chance de, tout à l'heure, j'entendais Jean-François, ce grande douleur, parce que moi j'ai eu l'écriture en particulier pour me sauver avec et d'autres activités. Et donc, si vous voulez, tous les enfants abusés, là j'en découvre beaucoup aujourd'hui, eh bien on a tous enterré ça. Et certains l'ont enterré jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils viennent me dire, mais merci, merci, merci de ton témoignage, maintenant je vais pouvoir le dire. C'est assez incroyable.
C'est ces mots, en tout cas, que vous avez réussi à poser dans cet ouvrage, on le voit, on révélait, en tout cas, on poussait d'autres victimes à parler. Vous restez en ligne avec nous, Jean-Pierre, on va justement parler de tout cela après la pause.
Europe 1. Des enfants victimes d'abus sexuels commis par des hommes d'église. Nous en parlons avec vous sur Europe 1 et nous vous écoutons au 3921. Nous parlons des crimes pédophiles commis par des membres de l'Église et vous êtes sur Europe 1 avec Olivier Delacroix.
Jean-Pierre, avant de vous quitter, j'ai une dernière question concernant cet ouvrage. Est-ce que vous avez l'impression que dans une Vendée toujours aussi croyante et pratiquante, cet ouvrage, il a fait du bruit? Est-ce qu'il a fait prendre conscience aux paroissiens de toute la Vendée qu'il se passait quelque chose et qu'il fallait bouger?
Alors j'ai une double réponse, si vous voulez. La première, c'est que dans mon livre, je dénonce, avec d'autres témoignages quand j'ai fait le livre, je dénonce 3 abuseurs, si vous voulez. Et aujourd'hui, l'évêque qui vient de faire une déclaration est à 9 à 10 abuseurs sur le seul séminaire. 3 ou 4 sur une autre institution. Donc, c'était en Vendée, c'est quelque chose de très, très important. En face, je ne sais bien combien on aura de déclarations d'abusés, je ne sais pas. Je crains une petite dizaine, 10%, comme on a toujours dans les autres cas, pour plein de raisons, hein. Le vieillissement de ces personnes, la peur de la parole, l'état de croyance, le déni, etc. Donc voilà la situation. Pour le reste, puisqu'il y a eu des interviews faites à la sortie des églises, on sent bien une grande, grande gêne de la famille catholique, des paroissiens, et un refus pour un certain nombre de le croire.
Mille merci pour votre...
Mais ça se passe ailleurs, dans d'autres catégories sociales, etc., enseignants.
D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage, Jean-Pierre, et bravo pour cet ouvrage qui fera avancer, j'en suis sûr, les choses. Merci. Et nous accueillons désormais Véronique. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Véronique.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous avez 57 ans. Lorsque vous aviez un peu plus de 13 ans, vous avez été abusée sexuellement par un curé, ami de la famille. Décrivez-moi cet homme, en tout cas, quelle position il occupait vis-à-vis de votre famille. Il était respecté, aimé?
Oui, il avait su se faire accepter dans la famille, et même peut-être il avait su devenir indispensable, et il avait pris une place importante.
Alors, on est là pour parler de votre reconstruction, hein.
Oui.
Ce n'est qu'en 2010 que vous avez décidé de briser le silence. Pourquoi aussi tard, et comment l'avez-vous brisé, ce silence?
En fait, on ne fait pas exprès, mais c'est comme si c'était tellement difficile qu'on enfouit tout ce qui est une trop grande souffrance, on l'enfouit tout au fond de soi. Et il se trouve qu'en 2010, quand les médias ont commencé à révéler beaucoup, beaucoup de cas dans le monde entier, à un moment donné, c'est devenu comme insupportable, et il me fallait absolument faire quelque chose. J'ai eu ce désir en moi, même plutôt comme un besoin vital, de faire la vérité avec l'Église, de dire à l'Église, ben voilà ce qui m'est arrivé en telle année avec telle personne.
Comment ces révélations ont-elles été prises par l'Église?
Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance, en fait, de tomber sur un évêque. J'ai écrit à l'évêque du diocèse où ça s'était passé pour moi, à Nancy. Et en fait, j'ai eu la chance que cet évêque m'a répondu, on va dire, à la hauteur de ma demande. Et ça m'a permis de commencer un chemin personnel, mais aussi un dialogue, en quelque sorte, avec l'Église.
Une étape majeure, que cet évêque vous ait entendu. Oui. Vous avez gardé la foi, malgré tout?
Oui, alors comment dire, parfois je dis c'est plutôt la foi qui m'a gardé en vie, peut-être.
Ouais.
En tout cas, oui, j'ai gardé la foi en Jésus, en l'Esprit Saint, en ce que j'avais appris, mais ma foi a été très abîmée, amputée aussi, et ma difficulté, bien sûr, était encore avec l'Église.
Justement, j'allais vous demander si vous vous sentez aussi en pleine reconstruction avec votre relation avec l'Église, c'est le cas?
Alors, petit à petit, il y a des petits signes d'espérance aussi de ce côté-là. En fait, j'ai encore beaucoup de questions et beaucoup de distance avec l'Église. Notre confiance, ma confiance a été trahie. Hein, c'est l'Église qui a trahi ma confiance. Alors, bien sûr, je ne la redonne pas comme ça. Mais quand je vois pouvoir travailler avec l'évêque du diocèse où je suis, avec d'autres personnes, pour travailler à la prévention, travailler à l'écoute des victimes, travailler à la formation des adultes qui sont au service des enfants, oui, quelque chose de la confiance se reconstruit petit à petit et en effet, ça reconstruit aussi un peu une relation avec l'Église un peu plus apaisée.
Et justement, je crois qu'à la lumière de votre témoignage, on peut entendre, Véronique, la reconstruction, le pardon passerait par justement cette relation que vous avez eue avec cet évêque, les membres de cette église qui vous ont entendu, écouté et qui vous ont donné confiance pour que cette reconstruction eh bien commence et puis qu'elle soit encore en marche. En tout cas, merci pour votre témoignage. Merci aussi à Jean-François, à Jean-Pierre, à Catherine Bonnet de nous avoir appelé. C'est la fin de cette émission. On note tout de même qu'il y a une volonté de briser le silence, de briser une omerta qui a duré trop longtemps. L'Église semble elle aussi vouloir faire la lumière sur ses agissements pédophiles avec la création de cette commission indépendante, même si à mon avis elle a encore pas mal de travail cette commission. Elle sera présidée par Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d'État. Les objectifs de cette commission doivent être précisément, prochainement précisés, mais l'objectif principal à mon sens serait de reconnaître déjà le statut des victimes qui ont été abusés et puis ensuite de faire en sorte, bien évidemment, que de tels actes ne se reproduisent plus. Une dernière chose à l'intention des deux témoins que nous avons eus au début de cette émission et surtout à l'intention de Jean-François qui tenait à ce que nous précisions que aujourd'hui n'importe quelle victime d'abus dans l'église peut aller dans n'importe quelle gendarmerie et n'importe quel commissariat et sa plainte sera prise en compte. Vous pouvez bien évidemment continuer à en débattre sur notre page Facebook ou sur les réseaux sociaux.
Je vais vous en parler de tous les sujets. Hein, pour poursuivre les discussions, le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 et le vôtre.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble du droit à la déconnexion, un principe selon lequel un salarié a le droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de ses horaires de travail. Mais l'appliquez-vous si vous faites tout pour vous déconnecter du travail une fois à la maison, si votre entreprise vous oblige à rester connecté toute la journée, si vous avez fait un burn-out car vous étiez trop connecté, eh bien appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. Nous serons là pour vous écouter demain à 15h. Ma chère Ambline, j'étais comme d'habitude ravie de passer cette heure avec vous.
Également à demain.
Et à demain. Et je vous laisse avec ma pote Laurence Boccolini.
Merci.
On va jouer avec qui aujourd'hui, les filles ?
Avec Kéron.
Avec Kéron. Bon, eh bien, marrez-vous bien, les filles.
On
et à demain.
Essayer.
À demain.
À demain.
Ciao, ciao. Europe.